Chapitre 21. Le début de ce chapitre nous montre que Luc est toujours avec Paul et ses autres compagnons. Nous allons les suivre dans le voyage qui doit les amener à Jérusalem. À leur arrivée à Tyr, ils cherchent tout naturellement s'il y a des disciples, et ils en trouvent quelques-uns. Par ces hommes dont le nom n'est pas mentionné, l'Esprit donne un message à Paul, lui disant de ne pas monter à Jérusalem. Aux Éphésiens, il avait déclaré qu'étant lié dans son esprit, il s'en allait à Jérusalem. Et il est si profondément convaincu en lui-même qu'il ne reçoit pas l'avertissement qui lui est donné par ses humbles Tyriens. C'est un cas, semble-t-il, où il a laissé ses convictions intimes prendre le pas sur la voie de l'esprit qui lui venait de l'extérieur. Mais restons-en là, remarquons seulement dans la suite du récit comment Dieu a fait tourner en bien cette erreur, si cela en était une. Toutefois, que de difficultés Paul s'est-il attiré ainsi. À leur départ de Tyr, nous assistons de nouveau à une de ces réunions de prière impromptues et si belles. Et à leur arrivée à Césarée, nous voyons comment s'exerçait l'hospitalité chrétienne à cette époque. C'est Philippe, l'évangéliste du chapitre 8, qui les reçoit. Ses filles avaient un don prophétique, elles l'exerçaient sans doute selon les instructions scripturaires relatives au service des femmes, et elles nous sont données ici en exemple. Dans cette ville, le prophète Agabus rend encore une fois témoignage de ce qui attendait Paul à Jérusalem. Nous voyons à nouveau une touchante manifestation de l'affection que les compagnons de Paul et les saints à Césarée lui portaient, ainsi que du désir de Paul de laisser sa vie pour le nom du Seigneur Jésus. Incidemment, la manière de procéder, lorsqu'il y a une divergence d'opinion qu'on ne peut pas empêcher, nous est indiquée. Il convient à tous de se taire, avec le seul désir que la volonté du Seigneur soit faite, quelle qu'elle soit. Arrivé à Jérusalem, Paul raconte à Jacques et aux anciens, une à une, les choses que Dieu avait faites parmi les nations par son service. L'ayant entendu, il glorifie le Seigneur, car ils étaient prêts à reconnaître les gentils en Christ, conformément à ce qui avait été décidé lors de la conférence mentionnée au chapitre 15. Les gentils ne devaient pas être placés sous le joug de la loi. Mais les croyants d'entre les Juifs, devaient-ils observer leurs anciennes coutumes? C'est une autre question. Les frères à Jérusalem pressent Paul de s'associer avec quatre hommes qui avaient fait un vœu, et cela parce qu'on lui reprochait d'avoir enseigné aux Juifs qu'ils devaient renoncer à leurs coutumes. À leur avis, il convenait qu'ils fassent ainsi taire ces rumeurs. Un autre élément n'était pas étranger à cette suggestion. C'est qu'il y avait alors des milliers de Juifs qui avaient cru en Christ, et ils étaient tous zélés pour la loi. Nous nous serions attendus qu'ils soient zélés pour l'Évangile et ses espérances célestes, mais apparemment, ils n'avaient pas encore compris le vrai caractère de ce en quoi ils avaient été introduits. C'est à des chrétiens d'entre les Juifs comme ceux-ci que l'Épître aux Hébreux a été écrite. Ils étaient paresseux à écouter, et il fallait qu'on leur enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. Ils avaient besoin de lait et non de nourriture solide. Ils sont par conséquent exhortés à avancer vers l'état d'homme fait. Hébreux 5, verset 11 à 6, verset 2. Le conseil donné à Paul et qu'il suivit n'était pas particulièrement fait pour les conduire à l'état d'homme fait. C'était un expédient pour éviter des troubles, et comme bien souvent, il n'a pas atteint le but proposé. Il a entraîné Paul dans le temple, là où il était le plus probable qu'il trouve ses adversaires. Il est allé au-devant des difficultés au lieu de les éviter. L'émeute soulevée contre lui était fomentée par des Juifs d'Asie, des hommes qui, sans doute, avaient été impliqués dans le soulèvement qui s'était produit à Éphèse. Ils agissaient ainsi car ils pensaient que Paul avait profané le temple en y introduisant un Éphésien d'entre les gentils. Leur supposition était évidemment fausse. Non seulement il ne l'avait pas fait, mais lui-même n'était entré dans le temple que parce qu'il pensait désarmer ainsi leurs préjugés. Or, cette supposition s'est aussi révélée fausse. Néanmoins, c'est Dieu qui avait la haute main sur tout ce qui se passait. La prophétie d'Agabus s'accomplit. Paul perd sa liberté. Mais le chiliarque romain le met à l'abri de la violence du peuple. Les jours où il pouvait annoncer librement l'évangile sont terminés, sauf peut-être pour une courte période tout à la fin. Nous avons là le début de la période où il devait rendre un témoignage puissant devant la population de Jérusalem, puis devant des gouverneurs et des rois, et même devant Néron en personne. Dieu sait comment faire tourner la colère de l'homme à sa louange et comment arrêter le reste de sa colère. Psaume 76, verset 10. Il sait aussi maîtriser les erreurs que ses serviteurs peuvent être amenés à commettre, et s'il ferme devant eux certaines voies de service, c'est pour en ouvrir d'autres qui, par la suite, seront manifestées plus importantes encore. C'est parce qu'il était emprisonné que Paul a écrit ses épîtres inspirées qui, depuis près de 20 siècles, édifient l'Église.